Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Aujourd'hui, je suis doublement ravie. Ravie car c'est ma première interview post-confinement et ravie car je suis face à Marion Gros dont j'aime beaucoup le travail. Dans son atelier, Marion fabrique des assiettes en céramique, pièces uniques à la beauté brute et pure, souvent habillées de couleurs douces et féminines, que l'on retrouve sur les tables des restaurants des grands chefs comme Hélène Darroze, Guy Martin ou Cyril Lignac. Un succès et un public en pamoison devant ses créations que j'ai la chance de pouvoir observer d'où je suis assise, dans son atelier parisien, entre des bols tout juste terminés, des assiettes qui vont bientôt être livrées et des bouquets de fleurs séchées qu'elle vend également, clin d'œil à l'ancien fleuriste qui occupait les lieux ici. Bonjour Marion.
Bonjour Hortense.
Alors comment je te présente, céramiste ou potière, c'est la même chose, quelle est la différence ?
Alors pour moi c'est la même chose, j'en joue un peu si je suis dans des endroits où je sens qu'il faut être un peu chic, je vais dire céramiste, ou à l'inverse si j'ai envie justement de ramener un peu à la terre. Je crois que je suis assez attachée au mot de potière, qui a quelque chose de plus rural et surtout de fabricant de pots et de vaisselle, qui je crois me correspond bien. Céramiste voudrait dire qu'on maîtrise toutes les terres et toutes les méthodes de la céramique. C'est assez ambitieux quand même hein, comme terme. Moi, dans mon ressenti, je dirais qu'il s'adapte plus à quelqu'un qui pourrait partir dans l'abstrait. Moi, en tant que fabricante de vaisselle, je pense que potière peut me suffire, même si... Puis voilà, c'est un vrai artisanat de poterie.
Alors, d'où te vient cet attrait justement pour la céramique, la poterie et particulièrement pour la vaisselle en céramique ?
Oui, c'est bien dans cet ordre-là. C'est-à-dire que je crois que je fais plutôt partie de la cuisine et de la table que de la céramique. Mon attirance, elle est de construire des tables, comme des tableaux, comme d'être dans cette vraiment joie de la réunion à table. Et bien sûr de la cuisine. La terre, c'est mon moyen. Et puis, j'ai un rapport très direct et très, j'allais dire facile, ce serait un peu... j'ai envie de dire facile parce que, ayant fait des études artistiques, ayant eu très jeune envie d'aller vers des métiers d'expression, mon parcours étudiant, à chaque fois, par le dessin, me repoussait un peu sur le bas-côté. C'est-à-dire que je ne suis pas bonne en dessin. En tout cas, je ne suis pas très bonne. Et d'abord, ça ne faisait pas de moi une très bonne élève parce que tous les parcours artistiques passent ici par la première étape du dessin. Et puis, en plus, j'arrivais pas à raconter ce que je voulais. Aujourd'hui, mon dessin arrive à raconter parce que je dessine un peu comme je fais de la poterie, vous voyez, du coup. Donc, avec beaucoup de spontanéité et en étant plus attachée au geste qu'à la perfection. Et en fait, quand j'ai rencontré la terre, on va dire, ça m'a libérée de ce complexe-là.
En fait, tu fais ça depuis une dizaine d'années
seulement.
Ça va
faire 10 ans. Ouais. Avant ça, j'étais styliste photo dans la déco et j'étais amenée à travailler avec... Alors à l'époque, on morcelait pas autant styliste culinaire et styliste déco. Donc on pouvait tout à fait faire du stylisme d'assiette en étant dans la déco. Et donc j'ai rencontré des céramistes et j'ai trouvé que c'était, ça me faisait rêver. C'était pas dans la liste des métiers qu'on nous propose, moi de mon époque quand j'avais 20 ans. Cela dit, je suis assez familière quand même. Je vais depuis toujours en vacances dans un endroit de poterie dans la Drôme. Ça fait quand même La vaisselle, peut-être plus que la céramique, fait vraiment partie de mon héritage familial et de nos traditions, on va dire. C'est important chez nous.
Mais comment on passe de cet univers quand même un peu de la presse à devenir céramiste ? Quel a été le déclic ?
C'est pas un déclic, on entend beaucoup parler de reconversion en ce moment et on me consulte beaucoup à ce sujet. C'est un mot que je n'utilise pas pour moi parce que moi je crois en la vie qu'il y a des virages, qu'il y a des routes. Et puis j'ai été styliste photo dans la presse, je n'étais pas très épanouie. J'aimais bien ce que je faisais, mais je n'étais pas à l'aise. Ça demandait des choses, des qualités que j'avais pas. Et donc j'ai continué ma route. Et puis petit à petit, on se précise en fait. Pour moi, je me suis précisée et je me rendais compte que exercer ce métier de styliste photo remplissait pas mes intentions créatives. Donc voilà, petit à petit, on grandit puis on arrive à encore creuser un petit peu plus pour se rapprocher de soi-même.
Et qu'est-ce que tu venais chercher dans un travail manuel ? Parce que c'est quand même très différent de ce que tu faisais avant. Même si tu ne veux pas parler de reconversion, c'est quand même pas exactement la même chose.
Oui, oui, tout à fait. Mais le manuel, il est au départ, depuis enfant, je veux dire, à 5 ans, je tricotais. Enfin, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement naturel et... fait partie. Vraiment, du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours ou bricolé ou eu une petite mallette avec 1000 trucs à coller, à piécer, tricoter, coudre. Ça, c'est mon naturel.
Qu'est-ce que ça t'apporte ?
C'est indispensable. En vacances, je ne sais pas faire autrement que de bricoler, que de fabriquer des choses. Ça, c'est le spontané. Après... décider comment, quel résultat je veux. D'ailleurs, je le décide pas en amont. Là, c'est vraiment, ça touche chez moi quelque chose de vraiment instinctif et spontané.
Il a fallu l'apprendre quand même, ce métier. Oui. Comment ça a démarré ?
Oui, il faut l'apprendre. Et puis, c'est vraiment ça s'apprend. Mon attirance, ça a été le tour. Une envie, vraiment un désir de savoir tourner. Je trouve ça... Ça m'a toujours fascinée. Il y a quelque chose dans la matière et c'est virtuose quoi pour moi. Hein. C'était vraiment une attirance. Donc j'ai décidé de me former autour, de passer un CAP de tourneur. Donc à l'époque, c'est pas il y a 1000 ans non plus, mais il y a 10 ans, il n'y avait pas de centre d'examen à Paris. Donc j'ai appris avec un monsieur incroyable et formidable. Et il y a 10 ans, il avait 84 ans et je crois qu'il donne encore des cours aujourd'hui. Je lui dois beaucoup. Il s'appelle Augusto Tozzola. Et j'ai tourné 7 heures par jour pendant une année scolaire. C'était vraiment intensif et un peu obsessionnel. C'est-à-dire qu'on faisait que ça. On cuisait pas. Je n'ai pas cuit une pièce pendant un an. Et c'est vraiment une humilité intéressante. J'y étais forcée, j'aurais aimé. Hein, mais, et donc ça, j'ai passé le CAP. Et ensuite, j'ai nourri mon apprentissage en partant... en Bourgogne, chez une céramiste qui est quasiment un maître pour moi, qui s'appelle Dauphine Scalbert, et chez qui je suis restée plusieurs mois, vraiment en immersion. Donc c'est en Bourgogne, en Puisé, qui est vraiment un pays de terre et de potiers, où au-delà de ce qu'on apprend en céramique, il y a un esprit de vie qui me sert tous les jours, d'atelier, de quelque chose de la vraiment de un apprentissage paysan de la vaisselle, quelque chose de nécessaire, d'utile. L'objet, sa qualité est de son usage. C'est pas du chichi, c'est pas pour être beau. Il l'est par son essentialité. Et c'est dans cette ruralité qu'on l'apprend. C'est pas dans des écoles de design. Et ça, pour moi, c'était formidable d'avoir cette route-là, de passer par une espèce d'authenticité de vie, quoi. C'était pas des expériences, quoi. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un endroit où on se chauffe au bois, et ça n'a jamais été autrement. On coupe son bois, parce que sinon, on n'arrive pas avec des bûchettes. Alors, mon père m'avait envoyé quand même dans une enveloppe cachée des zips pour pouvoir allumer le feu plus facilement. J'avoue que je l'ai planqué, mais que j'étais bien contente d'avoir un peu des antisèches. Et ça paraît un peu le Koh-Lanta de la poterie, mais c'était génial. Et moi, ça venait un peu rompre, mais j'aime la légèreté, mais j'ai arrivé là un peu en parisienne et c'était bien aussi de me resserrer dans cette austérité quand même. Hein. Moi, au début, je suis arrivée en disant, bon, alors, ok, alors le week-end, comment ça se passe pour rentrer? On m'a regardé, mais qu'est-ce que pour rentrer, pourquoi? Je sais pas, les copains. Bon, et non, il n'y a pas. Vite, on comprend qu'il y a une immersion et puis sur un rapport à la nature. C'est un tout. Et c'est en ça que c'est une vie de potier et pas de céramiste. C'est une vraie nature. Et même si je l'exerce à Paris, je pense la mettre en pratique quand même dans l'organisation de l'atelier. C'est un tout.
On sent une certaine poésie, une délicatesse, une émotion même presque dans ton travail. C'est ça que tu as envie de transmettre, c'est voulu?
Alors l'émotion, oui, sûr, c'est ce que je cherche. Enfin, c'est mon émotion que j'essaie de trouver. Et c'est quand il y a cette émotion que je crois que c'est juste. Je vise ça. Je ne sais pas bien comment l'expliquer, mais c'est ma petite équation permanente. De demander est-ce que là il y a quelque chose, et elle est intéressante ce défi, parce qu'en fait je fais quand même des assiettes à longueur de journée, d'année et de vie, et je m'en lasse pas. Et pour ceux qui font du yoga, ça peut avoir avec une posture qu'on refait, qu'on fait pour les premiers cours, et puis on dit oh oui bah ça va, c'est bon, facile quoi, je tiens tête en bas, bon. Et puis au fil du temps on comprend des choses, on sent des choses dans son corps, dans ses hanches, voilà. Et en fait, ça n'arrête jamais de découvrir ce que ça, comment on aligne son corps, comment on le, voilà, c'est fluctuant aussi en fonction de ses états d'âme ou ses états de physique. Et c'est très riche. Et c'est ça que je cherche tout le temps, c'est d'être dans mon alignement. C'est très personnel. Après, je ne demande pas à ce que les gens le comprennent. C'est pas explicatif. Mais moi, je le fais comme ça. Et je pense que quand même, si cette honnêteté est juste, alors dans la pièce, il y a une résonance. Même si elle n'est pas explicite, elle va créer une émotion chez l'autre. En tout cas, moi, j'ai des émotions en regardant des pièces de poterie, sur une brocante, même des pièces très modestes. Je peux vraiment avoir des émotions très fortes. C'est des pièces de maison. Hein. C'est vraiment la vaisselle, c'est quelque chose de très, très émotif dans son... Voilà, depuis qu'on est... C'est les repas, c'est se nourrir, voilà.
Hein, tu te retrouves là-dessus avec les grands chefs, justement, avec lesquels tu travailles?
Je ne sais pas comment eux cheminent leur réflexion de travail, mais si on vient me chercher, c'est qu'on a ça en commun, sûrement. De l'enfance, du souvenir, de l'envie d'être dans le sensoriel.
Et de travailler peut-être d'artisan à artisan, entre guillemets.
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que... J'essaie de comprendre pourquoi c'est aussi agréable de travailler avec les chefs, c'est qu'il y a, je trouve, une égalité de travail, c'est quand même beaucoup d'heures, hein, et eux, ils ont ça en commun, c'est quelque chose du métier à tisser, quoi, hein, laborieux, j'aime pas, mais c'est beaucoup de temps, et on connaît la valeur de ce travail.
Donc si on explique bien ce que tu fais, tu travailles beaucoup donc, avec les chefs, les restaurants, tu leur proposes en fait leur vaisselle?
Je préfère qu'on vienne me voir. En général, on vient d'abord me... J'aime bien qu'on ait envie d'abord, parce que j'ai quand même une écriture de vaisselle. Si elle n'est pas particulière, elle est en tout cas assez personnelle. En tout cas, c'est mon objectif. Donc, il faut qu'on ait envie de comprendre ça. Enfin, qu'on y adhère à ce... J'aime pas non plus le mot d'imperfection, mais une écriture, comme une graphologie. Donc, on vient me voir, on fait un rendez-vous. J'essaie de voir aussi ce chef-là, à quoi ressemble le restaurant, dans quel univers on baigne. Et puis, la conversation va avoir autant d'importance que les pièces que je vais leur montrer. Mais j'ai bien sûr un répertoire de formes. Et puis, j'ai des émaux, des matières, des couleurs qui me sont assez propres aussi, je crois. Même j'adore qu'on m'emmène dans des choses qui ne me viennent pas toutes seules, et puis ça crée des mélanges vachement intéressants, c'est des pistes. J'adore travailler à la commande, ça me projette, Voilà, c'est une petite contrainte qui crée beaucoup de créativité. Mais j'explique aussi lors de ce premier rendez-vous que quoi qu'on me demande, et si je l'accepte, évidemment, le résultat, il sera traversé par mon écriture. Il faut vraiment l'entendre comme une façon d'écrire. Et voilà, il est arrivé parfois des rendez-vous de clients où j'ai senti que là, on n'allait pas se comprendre. Si on me demande des choses trop délicates ou avec du décor, ou si on me demande du décor, moi, je vais répondre en termes de tâches. Et puis surtout, je vais dire que ça se travaille. On peut pas, on met pas une tâche gratuitement sur une assiette. Moi, il faut que je l'ai travaillée longtemps pour voir comment je trouve qu'elle a lieu d'être.
Mais voilà. Ils veulent des services entiers. Tu leur fais combien de pièces?
Bah, c'est variable. Il y en a qui aiment bien s'en acheter comme ça un petit peu de temps en temps, qui vont servir un peu selon le client une assiette différente. D'autres, après, on travaille beaucoup sur des ouvertures de restaurants. Donc là, ils vont jamais prendre tout. Ils commencent par des séries d'assiettes, fois 40, fois ça peut être le double, voire beaucoup plus. Mais et puis petit à petit, ils augmentent et puis ils se font plaisir. On dirait un peu un rapport aux vêtements. On a envie. Ils m'appellent parce qu'ils ont envie de nouvelles assiettes, quoi. C'est un support. C'est l'encadrement.
Pour eux, le contenant est aussi important que.
Je sais pas s'il l'est aussi, mais il est.
Non, peut-être pas autant, mais.
Non, pas autant, mais il en fait partie. Hein, et ça, nous, on peut tout à fait s'approprier ce rapport-là à la maison sans avoir une cuisine de chef, de choisir son assiette en fonction de ce qu'on prépare à manger ou de ce qu'on a de bon. C'est prendre soin de sa table. Et ce choix-là, il peut se faire avec vraiment comme une humeur, comme on s'habille, et puis aussi comment on associe une assiette, et puis selon les saisons et les légumes. C'est un acte conscient.
Est-ce que tu as déjà été impressionnée? Parce que parfois, on entend que les chefs peuvent avoir de la personnalité.
Non, mais moi, j'adore, ça me stimule. J'adore. C'est sûr que tous sont des tempéraments très forts et que je n'ai pas un exemple de personne qui m'a pas... Oui, bien sûr que je suis impressionnée, mais j'aime bien, moi, être impressionnée. Ça m'attire vers le haut et puis c'est un honneur, en fait, hein, vraiment.
Donc, ce sont des pièces uniques que tu réalises dans
unique,
ton atelier.
Unique, mais en série.
Que tu peux nous expliquer, est-ce qu'on va dire que si l'auditeur ne connaît pas forcément cet univers, est-ce que tu peux nous expliquer
Oui,
par
exemple, le diplôme de tourneur, c'est tourneur en série, c'est-à-dire qu'on va réaliser, et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas à la Maison des Artistes, puisque au-delà de 7 pièces, une série de plus de 7 pièces n'est plus de l'art, ça devient de l'artisanat. Et des assiettes, elles ont besoin d'être empilées, elles ont besoin d'être quand même... Il y a des cotes, des mesures auxquelles on se tient, et puis une régularité. On peut avoir envie que tout soit disparate, mais quand même. Moi, en plus, j'ai déjà un travail qu'on peut qualifier d'irrégulier, mais c'est une irrégularité qui n'est pas provoquée. C'est-à-dire que moi, il y a tellement d'étapes de contraintes de fabrication dans la poterie que... Mon élan, mon désir, c'est de laisser parfois des petites fenêtres d'ouverture à l'irrégularité. Mais jamais je la crée. Je ne vais pas bousculer une assiette pour qu'elle ait un côté relevé. Ça me paraîtrait vraiment gratuit et sans sens. En revanche, un atelier où il y a un courant d'air, où aujourd'hui il a fait particulièrement sec, va créer des séchages irréguliers. Et alors, parfois, ça va être vraiment trop. Et on enlève, on filtre quand même. Mais justement, moi, je laisse que ces petites respirations qui font que les pièces ont une âme, à mon sens. Mais donc, ce sont des séries d'assiettes qui ont des cotes, je les mesure. Elles sont calibrées selon mon cahier de modèle. Et pourtant, le résultat fait qu'il n'y en a pas une qui se ressemble. Comme des enfants, ils ont tous des expressions différentes.
Comme on est une pièce en céramique.
Donc, on part de l'argile. Il y a trois catégories d'argile qui sont la faïence, le grès, la porcelaine. Moi, je travaille essentiellement le grès, en tout cas de la haute température. De cette pâte d'argile qui est obtenue à partir de la sédimentation des roches. Hein. C'est vraiment une matière qui vient des montagnes, du vent, de l'eau. C'est magnifique de se dire que notre assiette, elle est finalement... issues de ces roches de nos montagnes, moi, ça peut me faire pleurer. Je trouve ça formidable. Et ça a, comme ça, sédimenté pendant des années. Les rivières les ont fait bouger. Et puis, on attrape voilà, dans ces veines, dans ces carrières d'argile. Évidemment, ce n'est pas aussi poétique. Ça part maintenant chez des fournisseurs et de pâtes de céramique. C'est travaillé. Enfin, ça reste quand même quelque chose vraiment de la géologie. Donc, de ces pâtes d'argile, on va les travailler à cru, les façonner. Moi, à l'atelier, à une consistance plastique, je vais faire un premier façonnage qui, le lendemain, voire le surlendemain, selon la météo, va être encore travaillé, puisqu'à ce moment-là, on va pouvoir la manipuler sans la déformer, tout en revenant incisé. On appelle ça l'étape du tournassage. On va pouvoir faire le dessous, qu'on ne pourrait pas faire d'une pièce complètement souple et imbibée d'eau à la première étape. Donc là, on tournasse. Ensuite, on va la laisser sécher entièrement pour qu'il n'y ait plus aucune molécule d'eau qui sinon risquerait d'éclater dans le four. Et elle va faire une première cuisson à peu près 1000 degrés. Donc là, elle va être, la cuisson dure 12 heures, mais elle va rester 24 voire 48 heures dans le four parce qu'on ne va pas ouvrir un four complètement brûlant. On ressort ces pièces qu'on appelle un biscuit et ces pièces-là vont être trempées ou on va verser dessus un bain d'émail. L'émail, c'est un mélange de minéraux essentiellement composés de silice et d'alumine auxquels on ajoute des oxydes, des colorants, des matières pour choisir une couleur, une brillance, une matité, une texture, une matière. Et là, on va remettre dans le four pour encore 2 jours. Pour pouvoir sortir une pièce finie.
Donc il faut combien de temps en tout ?
Au minimum, si vraiment on veut être complètement compressé, ce qui n'est pas l'idée d'une vie de potier, on va dire 1 huitaine de jours. Mais bon, on ne fait pas une assiette, on lance. Hein, et puis on en a qui en sont à cette étape-là. On travaille en série. C'est très proche du boulanger.
C'est-à-dire ?
Ce sont des fournées. Il ne fait pas un croissant à la fois et puis quand il a fini son croissant, il fait un deuxième. On va travailler 50 gobelets en façonnage et puis après, le lendemain, on en avait fait d'autres, on va les tournasser. Et puis, il y a comme ça un rythme, une cadence à l'atelier qui fait d'ailleurs que la vie est tenue par ces cadences-là et que quand, comme moi, on a la chance d'avoir son atelier à sa maison, il n'y a pas beaucoup de ruptures. Je peux me relever la nuit pour lancer un four ou voir que tout va bien. Ou le soir, on est évidemment tenté de d'agrandir un peu la journée après le repas. Mais j'adore ça. Je le fais vraiment parce que c'est agréable, quoi.
Alors, tu parlais de la couleur. C'est un vrai sujet. Et en plus, chez toi, c'est une vraie signature. Tu as des couleurs qui peuvent être unies. Mais tu parlais de tâches tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est un mot que tu utilises. Comment tu trouves la bonne couleur ? Comment tu travailles tout ça ?
Je travaille, alors on va parler d'émail, au pluriel les émaux en céramique. Hein. Donc c'est un travail qui est délicat parce qu'on le travaille, en fait les poudres qu'on va peser, mesurer, les recettes qu'on va mettre au point ne sont pas visibles à cru. Il faut qu'elles passent à une cuisson de 1280 degrés pour donner un résultat. Donc quand on fait de la recherche d'émail, on tente des recettes, mais on ne pourra les voir qu'une fois passé au four. Hein. Donc, ce n'est pas visuel comme peut être la recherche d'une peinture sur une palette. C'est plus proche de la cuisine, ça. Hein. Alors d'une cuisine qu'il faudrait cuire. Plus on en fait et plus on a des repères de mémoire pour savoir ça. Moi, oui, je suis attachée à la couleur, mais en fait, c'est des couleurs qui sont des matières et c'est des teintes, c'est des... faut que ça vibre. Je travaille beaucoup le rose, je travaille beaucoup le blanc, le gris, en fait des teintes minérales, et puis parfois pas du tout. Bon, on s'amuse, mais l'exercice, je pense que la rigueur, elle est justement de résister à toutes. J'ai envie de toutes les couleurs, je voudrais les travailler, et j'essaye d'aller au bout de une, quoi, avant d'en attaquer une autre, d'être vraiment d'aboutir ma recherche. Et aussi, j'ai un travail de matière première, je le laisse possible pour que d'un bain d'émail à l'autre, il y ait des variations. Il y a beaucoup d'obligations académiques dont je me suis affranchie dans la façon de faire de l'atelier. Il y a des choses que j'ai laissées plus libres que ce qu'on apprend à l'école, quoi.
C'est un métier qui se féminise, alors que je me suis quand même renseignée sur tout cet univers. Il faut quand même de la force, en fait, pour travailler. Il faut c'est un métier qui est un peu physique.
Ah oui, mais les femmes ont de la force.
Je ne dis pas le contraire.
Non, alors pourquoi, surtout, on peut expliquer pourquoi c'était un métier d'homme avant, c'était qu'il fallait préparer la terre. Et donc là, pour le coup, c'était plus que physique. Et puis c'était un travail qui était fait, c'était des familles de potiers. C'est-à-dire que donc, les hommes étaient à la terre et au façonnage, et les femmes faisaient l'aisance et le décor. C'était un peu ça dans la répartition. C'est très nouveau. Que le potier fasse toutes les étapes de fabrication. Normalement, on est ou ancier, ou tourneur, ou émailleur. Et comme ça, au sein d'une famille, ou en tout cas d'un atelier. À Sèvres, celui qui tourne, il émaille pas. Hein. C'est vraiment, on est normalement qualifié. Après, je ne suis pas sûre de ce que je veux dire, mais je pense que les années 60, 50 déjà, vraiment toute l'époque Valoris, les potiers du Sud ont comme ça... rendu le métier plus global. Pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui, il paraît que dans les métiers dont on rêve aujourd'hui, alors les femmes rêvent d'être céramistes et les hommes menuisiers. On peut méditer sur la question. Parce que c'est des métiers qui font un peu rêver, je crois, dans notre société et que peut-être que les femmes se laissent plus la possibilité de faire un métier qu'elles aiment. C'est aussi un métier où on ne gagne pas énormément d'argent.
Au début ou même tu crois que toute
de la vie ? Alors moi, ma chance, c'est d'avoir mon mari pour plein d'autres raisons, mais aussi pour celle-là, c'est-à-dire qu'on est associés aujourd'hui et que c'est tout à fait lui qui dirige l'entreprise. C'est devenu une entreprise. Et seule, je n'aurais pas su. Il organise ma production et mon travail avec une rigueur et une compétence de chef d'entreprise. C'est pas du tout son métier. Il a un métier très sérieux et qui l'occupe tout le reste du temps. Enfin, non pas que le mien ne soit pas sérieux, mais c'est pas son activité principale. Mais il est mon associé et il amène vraiment une logique à mon entreprise et une logique de rentabilité que j'aurais pas su me donner seule. C'est une chance inouïe. Et quand je suis beaucoup, comment dire, on fait beaucoup appel à moi pour savoir comment il faut faire pour changer de vie. Ça, c'est des grandes formules. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais vraiment pas. Je suis toujours un peu mal à l'aise pour répondre à ces requêtes-là. Néanmoins, il ne suffit pas d'aimer la terre. C'est pas facile de gagner sa vie avec la céramique. C'est possible, mais ça reste une entreprise.
Il y a un vrai retour quand même de l'artisanat et en plus il y a un vrai un peu renouveau quand même de la céramique, alors que toi justement qu'est-ce que tu en penses là depuis quelques années, toutes ces femmes qui vont faire des ateliers poterie ou je ne sais quoi, toi tu la travailles depuis beaucoup plus longtemps, comment on l'explique toi, qu'est-ce que tu t'en
penses ? Alors en fait je suis pas d'accord avec cette analyse, je pense qu'elle est très visible sur les réseaux sociaux, il paraît ça, ouais. Mais je pense pas que ce soit vrai parce que d'abord la céramique ne peut pas être à la mode compte tenu de l'ancestralité, je sais pas si ça se dit, de cette matière. Qu'est-ce qu'on retrouve dans des fouilles archéologiques ? C'est de la poterie. On a aujourd'hui une telle proposition de vaisselle et industrielle et pas chère. On croule sous les propositions de vaisselle. Avant, on avait son service, souvent offert et choisi lors du mariage. Il était très important, il était très respecté. On n'était pas censé le changer. Bon, il y avait le service du dimanche, il y avait celui de la grand-mère. On savait d'où il venait. C'était du Limoges, c'était du Sarreguemines. Et tout ça, c'est des potiers, quoi. Hein. Aujourd'hui, on sait si c'est Ikea ou Zara Home, mais et surtout. Quand on disait c'est du Limoges ou du Bernardo, ça dit des régions et donc des terroirs de terre. Chaque région a une terre locale, vraiment c'est une sorte de terroir avec lequel traditionnellement une poterie est utilisée. On a plutôt perdu ça. On a en Provence, dans les vieilles maisons, ce sont des assiettes assez épaisses parce que c'est de la faïence. le grès plutôt en Bourgogne et plutôt même dans la région d'Amiens. Enfin, chaque région a vraiment sa céramique. On le voit dans les livres de brocante et tout. On l'a plutôt perdu. Alors, il y a un engouement pour la vaisselle qui se retrouve dans les boutiques de grande distribution qu'on connaît bien, qui sont en général les mêmes que les vêtements. Et puis ensuite, il y a un engouement pour les vies meilleures. Je crois que c'est deux choses différentes et qui se confondent un peu dans finalement ce qu'on pense être la céramique à la mode. Donc l'engouement pour la vie meilleure, bah oui, évidemment, on peut reprocher ça à personne. Je pense qu'on s'est un petit peu perdu dans les métiers du tertiaire qui finalement ne donnent plus beaucoup de sens et que là, on est sur un métier qui a un résultat immédiat. On fabrique un objet utile dans lequel on mange, qui est le propre de rester en vie. Donc comment peut-on être plus pragmatique que ça? Non, c'est extrêmement satisfaisant de fabriquer de la vaisselle, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier que voilà, ça reste une entreprise. Mais je souhaite à tout le monde d'avoir des métiers aussi voilà, satisfaisants.
Tu parlais de production industrielle. Toi, tu as lancé une collection industrielle, entre guillemets. Quelle est la différence entre ce que tu fais en parallèle?
Alors, c'est vrai que nous, on l'a appelé industriel. Et puis, ça n'a pas forcément été très bien compris. Alors, pourquoi cette série déjà? Parce que moi, je n'arrivais pas à tout faire. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir plus de demandes que ce que je peux faire. Donc là aussi, on a réfléchi comme une entreprise. Est-ce qu'il faut embaucher? J'avais pas très envie. On aurait pu faire tourner, par exemple, au Maroc, où il y a encore beaucoup de tourneurs, dont c'est un métier courant. Et puis, j'avais pas envie qu'il y ait l'âme d'autres potiers dans ces pièces-là. Donc là, on va faire fabriquer, à partir de mes pièces, de 5 formes qui sont les plus utilisées, les plus vendues quand même dans mon travail. On va en faire des moules et on va utiliser la méthode du coulage, qui est une méthode tout à fait artisanale et traditionnelle, qui est dans toutes les... Il n'y en a plus beaucoup, mais dans les manufactures traditionnelles. Et on va fabriquer en série. Ça demande quand même, nous, pour nos pièces, il y a 7 personnes humaines qui travaillent dessus. Ça passe entre leurs mains. Donc, on a travaillé avec la manufacture de Digoin, qui est en Bourgogne, qui est un endroit, mais exceptionnel. Et qui vient vraiment... dans notre sens, louer une tradition de fabrication et de vaisselle. Eux, au départ, c'est une manufacture qui faisait des pots de conservation pour les farines, pour le blé, pour tout ça. Et c'est une entreprise qui mérite d'être, pas aidée, mais d'être soutenue pour que perdure ce savoir-faire-là. Donc, c'est des pièces qui sont réalisées à la main, mais pas par moi. Mais issus de mes pièces que j'ai réalisées à la main.
Et que tu vends au grand public?
Alors, au départ, c'est fabriqué pour pouvoir se mélanger avec les pièces de l'atelier. Ce sont les mêmes formes, donc on peut les empiler. On a pris vraiment les 5 best, les formes les plus courantes, les plus classiques, dans 5 couleurs différentes, mais ça va évoluer. Au départ, ma clientèle sont les chefs. Ils doivent pouvoir, ça leur permet que ce soit disponible tout de suite, puisqu'on a le stock, et d'avoir une certaine standardisation quand même de ces pièces. Et ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir enfin vendre au grand public dans des quantités de services. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'organisation de l'atelier ne permet pas de prendre des commandes pour les particuliers. Ce serait trop compliqué à satisfaire. Je ne prends toujours pas de commandes pour les particuliers sur la vaisselle de l'atelier. Mais il y a un petit stock qui est dispo pour ceux qui sont de passage à Paris. On peut quand même acheter un peu en dépareillé. Mais cette collection de vaisselle, elle est vendue à l'atelier. Elle est vendue en ce moment chez Merci. Et voilà, on ne va pas être distribué dans beaucoup d'endroits. Et on fera une fois par an sur le e-shop une vente éphémère à prix pro. Justement pour que, comme ça, un peu... de façon ponctuelle, on puisse faire profiter aux particuliers de cette vaisselle.
Donc là, on est dans ton atelier. Donc c'est ouvert au public. On peut rentrer, on peut venir te voir travailler, par exemple, ou c'est pour acheter quelques pièces
On peut faire tout ça. C'est important de comprendre que ce n'est pas une boutique, mais c'est un atelier où il y a une étagère. En fait, toutes les commandes qui me sont passées, au moment où je commence à fabriquer, je vais envisager 30% de plus. puisque c'est pas à la fin de la fabrication que je vais me dire ah il y en a deux qui ont pété dans le four, une dont l'émail est pas top. Donc on est obligé de produire un peu plus, donc se créer un stock tout seul que je mets à disposition d'une clientèle particulière. Donc ça, c'est tout à fait possible de venir voir ça. Et puis, c'est un vrai lieu de vie. L'atelier, il est devant mon appartement et c'est un vrai lieu de vie. C'est-à-dire, il y a mes enfants qui rentrent de l'école, il y a mon mari qui passe, il y a souvent une ou deux stagiaires. C'est un vrai endroit où ça bourdonne. Et j'aimais bien que dans Paris, il y ait un endroit comme ça de vraiment d'atelier, d'artisanat. Ça papote, je suis pas forcément dispo, mais on peut rentrer. Je suis pas une boutique, je suis pas une vendeuse, mais venez, c'est sympa. Il y a une vraie, ça sent la terre, c'est les fours, il fait 1000 degrés alors qu'il en fait 30 dehors. Et bon, c'est il y a des moments, c'est le bordel, il y a des cartons partout, c'est pas du tout optimum, mais les gens se plient à ça et ils vont quand même enjamber les cartons pour regarder les étagères et c'est chouette.
Et tu vends aussi des fleurs fanées ?
Et je vends des fleurs fanées. Alors, c'était pas prévu au départ, mais en fait, cet endroit, c'était un fleuriste. Et donc, moi, avant cet endroit, j'ai toujours fait sécher des fleurs parce que, je sais pas, c'est une poésie commune à mes poteries. Et du coup, c'était sympathique d'être dans la continuité de cet endroit, surtout qu'on a une vitrine. C'était une contrainte qui est devenue un super truc en plus.
Tu as abordé tout à l'heure, tu nous as un peu parlé de ton mari qui travaille avec toi, parce que toi, tu es quand même chef d'entreprise. Comment tu t'organises entre l'administratif et la créativité ? En fait, l'administratif, tu ne le gères pas vraiment.
Ah mon Dieu, si. Bah, alors, pas complètement. La créativité, elle est entre toutes les lignes. En fait, il n'y a pas des matins créativité. En revanche, il y a des matins administratifs. Donc... tout est en état d'esprit global, c'est-à-dire qu'en fait, on se fait des soirées compta, il fait beaucoup, il fait les trois quarts, mais le quart qui reste, je galère, et je veux quand même comprendre et maîtriser. Il s'agit de moi, et puis tout ça est très proche entre la créa et la compta, et des fois, il faut, il faut diminuer des coûts, et puis bah, ça va forcément influencer... des choses, je suis au courant de tout, mais heureusement qu'il est là.
Mais à quoi ressemblent tes journées ?
Il n'y en a pas de pareilles, elles s'organisent vraiment. Il y a le matin, je fais le point, on va regarder tout ce qui a été fait la veille et pour que rien ne sèche trop, on récupère les choses de la veille. C'est vraiment très continu hein, sur la production. Et puis, il y a des journées avec des rendez-vous de chef, il y a des journées... où il faut que ça aille vite, il y a des journées avec les enfants, c'est une espèce de grand bric-à-brac qui est organisé, mais qui est très souple et malléable parce que je suis indépendante. Ça, c'est trop génial. Et si je veux faire du yoga à midi, je peux. Je ne le fais pas beaucoup parce que n'avoir de compte à rendre à personne fait qu'on s'en autorise moins, mais non, j'ai la belle vie, hein, vraiment.
Tu parles de yoga, il y a beaucoup de personnes, on en parlait tout à l'heure, qui vont faire de la poterie comme loisir. Toi, donc, tu fais du yoga ?
Oui, bien sûr, j'adore ça. C'est devenu un équilibre qui va bien. D'abord, on travaille beaucoup avec son corps dans l'atelier, alors il faut en prendre soin. Je suis en train de faire mon troisième enfant, donc aussi, quand la vie avance, on se rend compte comme notre corps est... Et serviable et qu'il faut en prendre soin. Plus on est dans son corps, dans sa conscience, et plus on est juste. On revient encore sur ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de justesse et d'être au bon endroit et de faire les choses avec, voilà, en étant bien rassemblés. Je trouve que le yoga sert cette cause-là de se connaître et d'habiter son corps. Et je trouve ça très cohérent avec tout le reste, quoi. C'est pas un loisir, c'est une façon d'organiser comme on organise sa pensée, et ben on organise son corps et ça, voilà, on met de l'ordre.
Ça t'a aidé peut-être, on n'a pas parlé de la crise qu'on vient de traverser, de ce confinement. Comment t'as géré ? Est-ce que ça a ralenti justement ton activité ou t'en as profité pour continuer à avancer parce que ça t'a pas changé tellement de rythme ?
Je dois dire que ça n'a pas... Donc, l'atelier est à côté de la maison, donc ça n'a pas... Non, ça n'a pas beaucoup changé le rythme. Aucune commande ne s'est annulée. Et je crois que j'arrive un peu en bout des projets. Donc, sûrement que s'il doit y avoir un ralentissement ressenti des restaurants, je vais l'avoir dans plusieurs mois. Ces mois qu'on vient de passer, mars-avril, évidemment que peu de projets sont nés à cet endroit-là. Mais moi, on ne m'appelle pas tout de suite. Et donc, la chance que j'ai, c'est que tous les projets sur lesquels j'étais ont été maintenus, donc soutenus. Et donc, ça, c'est super. Donc, je touche du bois. Mais pour l'instant, ça n'a pas ralenti du tout l'activité.
J'ai aperçu un bout de projet avec Dorothée Melikzon. Est-ce qu'on peut en parler ou pas ?
Oh bah oui, parce que c'est accroché. Alors, si on n'a pas le droit d'en parler, je crois que oui, on peut en parler. Donc, c'est le Grand Hôtel Pigalle, dans lequel Greg Marchand, le chef du Frenchie, s'installe. Et ça va devenir le Frenchie Pigalle. C'est un super endroit. Et cet hôtel, toute l'intérieur est faite par Dorothée Melikzon. Et ils refont tout. Et quand Greg et Dorothée se sont rencontrés, je crois, j'étais pas là, mais Greg a dit, je travaille toujours, ça faisait longtemps qu'on travaille ensemble et que je fais certaines assiettes de ces restos. Et je crois qu'il a dit à Dorothée que ce serait sympa de faire un truc avec moi. Je crois pas du tout que Greg avait l'intention que c'est autant d'ampleur. Mais tout ça s'est mélangé et Dorothée a dessiné comme un puzzle de fresques avec ces formes qui sont vraiment... propre à son travail, je trouve qu'on la reconnaît bien et c'est vraiment pas mes formes. Et en revanche, dans mes émaux, et ça qui sont vraiment reconnaissables, je pense, de mon travail, et ce mélange-là crée une fresque, je crois, de 8 mètres. Moi, je trouve ça monumental et je suis hyper contente, hyper fière qu'on soit venu me chercher pour ça. Et je trouve le résultat... très mixte dans tous les gens qui ont travaillé. Je trouve que chacun prend beaucoup de place et c'est un vrai honneur.
Quel plat tu aimes manger, toi, dans tes jolies assiettes? Quel est ton plat préféré?
Bon, je vais être banale, je mange de saison. Je mange en essayant de faire bien avec les produits, de réfléchir à d'où ça vient, comment ça a été fait, comment ça a poussé. Et si ça est respecté, alors voilà.
Tu cuisines?
Oui, je cuisine, mais je cuisine simple parce que je cuisine des bons produits. Je suis très bec sucré, mais je crois que c'est un poison. Alors, il y a des gens comme Jennifer Hart Smith qui a écrit La pâtisserie naturelle. Enfin, là, c'est un peu mes guides dans comment faire mieux. Vraiment, il y a ça, la question de la santé, de l'alimentation. Je suis à l'écoute de ça. C'est ça j'adore le chocolat, je pense que c'est mieux, mais je vais acheter un bon chocolat. Je vais pas... Mes enfants n'ont pas de Kinder Bueno, ça c'est sûr. Ailleurs, oui, et je laisse faire ça, parce que sinon, les pauvres, je crois que j'aurais pas raison. Mais à la maison, on essaie d'être vraiment sur du truc un peu intégral, pas marrant, mais voilà.
Oui, donc il y a une vraie cohérence sur la food, la vaisselle.
Ouais. Oui, j'y tiens.
C'est quoi pour toi une jolie table? À quoi ressemblerait une table idéale que tu dresses pour des copains?
C'est une table joyeuse, c'est une table où la nappe est dans une belle matière. Enfin, une belle matière. Moi, quand je me suis mariée, j'ai acheté des vieux draps que j'éteins parce que les nappes à louer, mais c'était un... Mais mon Dieu, comment c'est possible, quoi ? Truc inifugé et tout. Enfin, et donc ça va être ça. En fait, c'est toujours dans cette idée qu'on choisit. Et si c'est même... j'ai aucun problème pour faire une table dans une maison qu'on loue. Bon, a priori, il n'y a pas grand-chose, mais... liberté, quoi. On va chercher 2-3 feuilles ramassées par terre, on bricole, mais ça va avec un tout. Moi, une chambre d'hôtel partout, en quelques petits trucs, on va s'approprier un endroit, un espace, et on en prend soin, on se cocoune une niche, et puis je pense que cette intention là elle va être ressentie par les convives, et voilà. Après, nous à la maison, je dis pas que c'est facile, mais tout est en poterie, donc tout est dépareillé parce qu'on prend tous les trucs un peu pétés de l'atelier, donc c'est pas le plus représentatif de ce qui serait l'idéal de mes tables, mais je sais pas, c'est vraiment de jouer avec ses envies, en fait. C'est comme les fringues, c'est pas, y a pas une bonne tenue, il y a celle qui est adaptée à l'endroit, aux gens, au moment. Voilà, ça doit être simple.
Et si tu faisais un dîner avec 6 personnalités, ce serait qui? Qui seraient tes invités?
Oh là là, ça me prend de court. Je sais pas, Duras, Sagan, Barbara et Vous voyez le genre, quoi. Hein, ce serait plutôt vers ça. Mais dans la vraie vie, moi, un dîner de potes et mon mec, et voilà, je suis bien.
Comment tu définirais ton style déco ? Ça ressemble à quoi chez toi, par exemple ?
Je sais pas le définir. En revanche, je suis extrêmement. Je sais ce que j'aime et ce que j'aime. Enfin, c'est très simple pour moi. En fait, c'est voilà, il y a des choses qui. D'abord, c'est le moins possible d'objets. Ça, c'est important. C'est de retirer, alléger. On y gagne tellement pour tout. Mais c'est une discipline parce que c'est pas forcément.
Mais qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce que tu trouves qu'on gagne ? Parce que tout le monde n'est pas
de
cette place.
La place dans sa tête, de la disponibilité. On gagne tout à défaire.
Il n'y a pas des objets auxquels tu es attachée, par exemple ?
Je ne crois pas. Après, j'aime les regarder et ce n'est pas comme si je ne m'en fiche pas. Et c'est important pour moi, mais je trouve que je rêve d'un truc immaculé où on n'a pas un aspirateur moche à ranger. Il y a quand même forcément des objets un peu ingrats. On choisit les objets pour leur histoire ou ce qu'ils évoquent en nous. Et puis s'il n'y a pas ça, ben on ne les achète pas, quoi. Bon, je ne fais pas l'éloge de la brocante, c'est pas ça du tout, mais il faut que ça, voilà, faut que ça tilte un truc ou c'est un moment ou des vacances, enfin, mais le moins possible, quoi.
Donc, t'achètes pas souvent de nouveautés, de nouveaux meubles ou objets déco.
J'essaie qu'on en ait besoin pour en acheter.
Quel est ton dernier achat ?
Eh ben, mon mec m'a offert deux fauteuils en rotin pour là la terrasse et je les aime beaucoup.
Et quelle est ta pièce préférée chez toi ?
Ma chambre. je suis très chambre, je peux vivre dans mon lit. Et après, non, je devrais dire en un, l'atelier, vraiment là où je peux, l'atelier, c'est mon endroit, sans hésitation, et je pourrais y dormir. Mais sinon, je suis une fille de la chambre.
Ok, super. Merci beaucoup, Marion, pour cette conversation.
Merci, Hortense.
Merci, au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.